RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Zora Vitan, cadre de la fonction publique. Nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur, anthropologue, et nous sommes avec un professeur de philosophie, agrégé de philo, s'il vous plaît. C'est Jean-Loup Bonamy qui nous accompagne aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules. La première heure des GG est passée, vous pouvez d'ores et déjà la retrouver en podcast, c'est-à-dire la rattraper sur notre site internet rmc.fr ou bien sur l'appli des GG. Ça vous permet comme ça à tout moment de pouvoir réécouter les grandes gueules. Si vous l'avez raté, vous pouvez avoir de très bonnes raisons de ne pas écouter les grandes gueules en direct. Vous pouvez par exemple travailler, ça se fait dans notre pays quand même, de travailler, et puis le soir, comme ça vous dites, tiens, que s'est-il dit aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, de quoi ont-ils parlé avec Zora, avec Étienne et avec Jean-Loup. Les podcasts, c'est fait pour vous. De quoi va-t-on parler maintenant justement, des déplacements de supporters dans les stades? Est-ce qu'on doit maintenant dire terminé? Plus aucun supporter ne se déplace en Ligue 1 pour un match de foot. Il faut reparler de ce qui s'est passé à Nantes.
RMC, les grandes gueules.
Voilà ce qu'en dit la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra.
Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça dans le foot. J'ai échangé longuement avec Vincent Labrune, le patron de la Ligue de foot hier. Il partage mon désarroi. Alors, c'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc, il faut une initiative globale, une réponse globale et à situation radicale, mesure radicale. Parce que quand le match, en tout cas, quand il présente un risque, oui, je pense qu'il faut, là pour l'instant, s'arrêter sur les déplacements de supporters. Je pense que c'est incontournable d'avoir un temps de retour à une situation de moindre violence. C'est juste pas possible qu'on ait des forces de l'ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées, maintenant un mort. Basta.
Basta, dit la ministre des Sports, Frédéric Oudéa Castéra. Basta, oui. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est la conséquence de la mort du supporter du FC Nantes de 31 ans, samedi soir, en marge du match entre Nantes et le GC Nice.
Oui, mais il y a eu l'agression du petit Kenzo à Ajaccio, les pétards lors de Montpellier, clairement, l'attaque du bus lyonnais à Marseille avec l'entraîneur lyonnais, d'ailleurs, qui a été depuis viré, Grosso, qui s'est retrouvé avec une tête en sang. Il y a eu aussi un caillassage de bus à Montpellier. Et donc, la mort de ce supporter du FC Nantes, c'était samedi soir. Alors, attention, hein, parce que, effectivement, c'est en marge. C'est un chauffeur VTC qui l'a poignardé, qui, visiblement, s'est plutôt acharné sur lui. Hein. Donc, l'enquête est en cours. Enfin, en tout cas, c'était en marge de cette rencontre entre Nantes et Nice. C'est un peu un aveu de faiblesse, ce que dit Amis Esports. C'est en gros, on n'arrive pas à contrôler la situation, donc on va interdire tous les déplacements de supporters. Et puis on verra, alors qu'il y a d'autres solutions, notamment des solutions anglaises, qui ont été assez radicales, mais qui consistaient à cibler les fauteurs de troubles et pas seulement à punir tout le monde. Alors est-ce qu'il faut une punition collective ou au contraire à être plutôt plus radical contre les hooligans? C'est comme ça qu'on les appelle en Angleterre.
3216 rmc.fr pour en parler dans les GG. Zora?
Bah, en fait, ce que je note, moi, c'est que même dans le sport, et le foot en particulier, mais pas que, on note quand même une façon de procéder de la part d'un plus grand nombre de gens, et le foot est touché, de cette espèce d'ensauvagement, de délinquance, il n'y a plus de règles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de façon de se comporter, il y a un réel problème d'éducation et de rapport à l'autre partout où on est. Et le foot, on sait bien, les hooligans, ça a été quand même violent pendant des années, les Anglais ont trouvé des solutions, nous, à chaque fois, on découvre l'eau chaude, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on découvre les problèmes, et à chaque fois, comme on est acculé, quand c'est trop et c'est énorme, on prend des solutions radicales. J'ai envie de dire, comme on est mauvais, bah prenons les solutions radicales, puisque de toute façon, des solutions pérennes et efficaces, on n'en a jamais. Il faut toujours que nous, on réponde dans l'urgence par des lois qui s'appliquent jamais, ou par des choses absolument ahurissantes qui vont venir comme un pansement et qui, au prochain coup, feront l'effroi de la classe politique. Donc oui, bah, dans un premier temps, vu que c'est la seule solution, bah, faut punir, mais il faudrait quand même peut-être songer à des solutions plus pérennes et plus efficaces pour faire en sorte que tous les fauteurs de troubles ne mettent plus les pieds dans les stades.
Bon, Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que premièrement, c'est quand même quelque chose qu'on constate au foot. On ne le constate pas du tout au rugby, par exemple.
Non.
Ça, c'est quand même. Faut se poser aussi la question de pourquoi. Moi, je pense qu'il y a un vrai. D'ailleurs, il y a une évolution globale du football qui est assez inquiétante en France. Vous savez, c'était le livre d'un journaliste qui justement est spécialiste du foot, qui s'appelait Racaille Football Club.
Oui, Daniel Riolo.
On voit des comportements se développer, que ce soit de la part des joueurs, des supporters, des parents des enfants qui jouent au foot. Mmh. Parce que les parents, aujourd'hui, il y a plein de parents, de plein de milieux sociaux différents d'ailleurs, qui pensent que leur fils, hein, on en parlait, c'est le futur Mbappé. Et quand l'entraîneur leur dit, bah non, monsieur, votre fils, c'est pas Mbappé et vous ne deviendrez pas millionnaire. Hein, vous ne deviendrez pas millionnaire grâce à lui. On bascule dans la violence. Donc déjà, il faut se poser la question, pourquoi on voit ça dans le foot, mais pourquoi on voit pas ça ailleurs? Pourquoi on va pas ça au rugby? Pourquoi on va pas ça au basket, au tennis, à la boxe? Au Tour de France, enfin voilà, on voit ça, c'est quand même une spécialité, c'est devenu une spécialité du foot parce que ça n'a pas toujours été
l'homophobie.
C'est une évolution qui est quand même qui doit nous interroger. Deuxièmement, moi je suis contre le fait d'interdire les déplacements de supporters parce que je pense que c'est une mesure qui est un aveu de faiblesse, qui n'est absolument pas ciblée, qui punit tout le monde, alors que comme on l'a très bien dit, il y a des solutions beaucoup plus efficaces qui ont été mises en place ailleurs, notamment en Angleterre, en ciblant les ultras, les supporters violents. Mais pour ça, c'est vrai aussi, avant, on avait un service de police qui s'appelait les renseignements généraux, qui avait une section qui était spécialisée dans les violences, dans les violences sportives. Mais aujourd'hui, mais les RG, ils ont complètement été démantelés, c'était la réforme et tout. Aujourd'hui, on manque justement aussi d'un vrai travail de renseignement sur qui sont ces personnes violentes. Et enfin, troisièmement, c'est que moi, je pense que c'est un problème d'ensauvagement global de la société et d'insécurité. Donc, il ne faut pas à chaque fois essayer de serrer, de diviser les problèmes. C'est, il y a un problème de violence globale. Comment ça se fait que des gens se balade sur avec des couteaux. Par exemple, dans le meurtre de Crépol, on a vu qu'il y avait un gars qui, en fait, l'un des assaillants, qui avait déjà été arrêté, contrôlé avec lui, sur lui pour la police.
Pourquoi ce chauffeur lui avait un couteau?
Voilà, on lui avait confisqué son couteau, mais il n'y avait pas eu de sanction.
Le aujourd'hui, chauffeur vous BCC, savez, oui,
voilà. Il a un couteau.
Vous savez que si vous avez un couteau sur vous, on vous fouille, il y a un rappel à la loi, on confisque le couteau, mais il n'y a rien de plus. Bon, vous recommencez à vous balader avec un couteau sur vous. Il est là le problème. Il est dans une forme de laxisme global et dans ce sauvagement global.
Je pense que c'est extraordinairement symbolique de cette société, mais c'est surtout symbolique de ce qu'on a fait du football. Je veux dire que là, nous payons absolument ce que l'ensemble des acteurs du sport, l'ensemble des acteurs politiques et médiatiques ont fait du football. C'est-à-dire que le football n'est plus un sport dans lequel 11 types jouent au ballon avec 11 autres. Il est devenu une espèce de lieu de bataille générale dans lequel l'identité est plus important que le jeu. C'est-à-dire que ce sont deux équipes qui se rencontrent, ce sont deux villes qui se heurtent, ce sont deux mondes, c'est le monde de Paris contre le monde de Marseille, qui est une totale fabrication intellectuelle. C'est-à-dire on a fabriqué la haine entre Paris et Marseille, on a fabriqué la haine entre Lyon et Paris. On fabrique des haines pour monter les supporters qui comme dans le temps, quand on disait on a nos poilus qui se battent, ce sont les Français qui défendent la France. Aujourd'hui, nos poilus qui se battent, ce sont nos joueurs de football. On ne l'a pas fait avec les autres sports dans lesquels nous n'avons pas le même investissement. Le football, parce que c'est très riche, parce que nous avons besoin d'avoir beaucoup de supporters, etc., on en a fait cet endroit symbolique dans lequel ce sont nos égos et nos identités de ville, de région, de département qui se battent.
Il y a toujours existé des albums, des supporters, le besoin d'identité,
d'exister à travers des hommes.
Et la responsabilité individuelle, elle est toujours évacuée avec Étienne.
Étienne, je suis d'accord avec toi, mais t'as la ferveur des supporters, par exemple, des supporters de Lens. La ferveur, c'est pas à Lens.
C'est pas grave.
Où il y a forcément de la violence. Donc je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut distinguer la ferveur, peut-être même parfois le fanatisme autour du foot.
Mais regarde la violence. On a l'exemple de l'Amérique latine.
En Grande-Bretagne, ils ont réussi à mater les hooligans. Les hooligans, comment ils ont fait? Ils ont tout d'abord, c'est eux qui ont inventé les interdictions de stade. stade dès les années 80. C'est eux qui ont également dit tolérance zéro, même pour les mineurs. C'est-à-dire qu'on les exclut à vie de stade. Ils ont mis des policiers en civil dans les tribunes pour repérer les fauteurs de troubles. Comme ça, t'es pas obligé de condamner toute la tribune, mais tu condamnes uniquement ceux qui provoquent alors des insultes homophobes, des actes racistes.
Pardon.
Alors c'est vrai qu'ils ont fait monter les prix. C'est vrai que c'est plus cher. Donc, j'ai entendu notre ami Eric Dimico qui disait hier soir chez Roten, les clubs anglais, les stades anglais ressemblent à des cimetières. Alors, il y a peut-être moins d'ambiance, mais en même temps, ils ont réglé le problème. Madame Oudéa Castéra n'a qu'à aller en Grande-Bretagne, voir s'inspirer d'exemples anglais. On peut faire preuve de modestie en France. On ne sait pas tout en France. Et regardons ce qui marche ailleurs et appliquons-la.
Peut-être que ce qui a marché en Angleterre à une certaine époque ne fonctionnerait plus aujourd'hui de la même manière en France. Je rappelle quand même ce qui se passe, regardez ce qui se passe chaque week-end en Amérique latine. Regardez comment les gens. Mais oui, mais nous sommes aussi des latins.
Non, oui,
regardez comment les gens. Comment les gens. Juste. Non, moi je crois que vraiment le fond du problème, c'est qu'on a. Ce n'est plus un sport. Ça a dépassé totalement le. Norbert Elias, il le disait à l'époque sur cette question-là du remplacement de la guerre par le sport. Mais là, on est arrivé à un point paroxystique de cette question-là. Et ça va être très difficile de faire marche arrière. Et peut-être qu'il faut peut-être aller plus loin que ça. Et peut-être faire redescendre le sport à ce qu'il est. C'est-à-dire un jeu de mecs qui se battent pour une balle.
On va aller voir Kevin qui nous appelle du Calvados de Caen. Bonjour, Kevin.
Bonjour les GG.
Vous vous définissez vous-même comme un supporter, un ultra ou un. Du côté de Caen, du Stade Malherbe à Caen.
C'est ça. Exactement.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut dire stop au déplacement, comme dit la ministre Oudéa Castéra, basta?
Alors moi je trouve pas qu'il faut, pour moi faut pas dire stop au déplacement. C'est le problème avec les instances alors ministérielles, du sport, de la LFP, etc. C'est qu'en fait quand ils arrivent pas à gérer un problème, ils coupent tout. Ils coupent la vanne. Quand elle dit que c'est un aveu de faiblesse, alors elle a raison, pour le coup, ils sont faibles, ils arrivent pas à gérer un problème, donc ils prennent les moyens les plus radicaux possibles, sauf que pour moi ça va pas du tout arranger les choses. Les gens vont continuer de se déplacer parce que même si en France on n'a pas une grosse culture du déplacement, il y a quand même des gens, et moi le premier, qui faisons les déplacements, qui aimons ça parce que c'est quand même quelque chose qui est particulier. Moi,
est-ce que vous craignez ces déplacements? Est-ce que par exemple, quand votre équipe de Caen va jouer dans telle ou telle ville, vous dites aïe, là ça risque d'être un peu chaud?
Non, j'ai jamais craint un déplacement personnellement, sachant que je fais les déplacements, ce qu'on appelle en indépendance, c'est-à-dire que moi je me déplace en voiture, je vais en ville, j'en profite pour visiter la ville où je vais en général, ou passer au moins l'après-midi, puis après je vais au match.
Et vous avez les écharpes quand vous visitez la ville ?
Non, j'ai rien du club. En fait, nous, les ultras, on a un code vestimentaire et puis je suis habillé.
Ultra, ça veut dire quoi ? Ultra, ça veut dire quoi pour vous ?
Vrai
ultra,
fan.
Pour moi, alors c'est pas vrai fan. Il y a pas de faux ou vrai fan. Il y a des gens, voilà. Chacun supporte son équipe comme il le souhaite.
Ouais.
Ultra, c'est vraiment être derrière son club quoi qu'il arrive. C'est chanter pour le club. C'est faire partie du.
Être dans les populaires.
Du stade, hein. C'est presque faire partie de la vie du stade. Donc il y a des tifos, il y a suivre son club à l'extérieur, il y a aussi chanter pour le club. C'est une question très vaste, hein, ultra. On ne peut pas donner vraiment de termes dessus.
D'accord. Pour vous, ces supporters là qui en bande ont attaqué le bus lyonnais ou ont attaqué les VTC dans lesquels il y avait les Niçois. Est-ce que ce sont des supporters toujours ou pas?
Le petit Kenzo.
Le truc c'est que à Marseille, c'est assez compliqué de savoir. Personne ne sait qui sont ces gens, apparemment pas affiliés à des groupes du Vélodrome. C'est ce qu'on appelle des indeps. Après, est-ce que ce sont vraiment des indeps? Est-ce que ce sont des gens de la rue, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de quartiers à Marseille qui ont profité du fait que Lyon arrivait en centre-ville pour attaquer les bus. Je sais pas, j'ai pas assez d'éléments moi personnellement.
D'accord, mais vous dites pas d'interdiction de déplacement des supporters. Il y a pas de raison de punir tout le monde, quoi.
Ouais. Non, alors surtout, premièrement, faut pas punir tout le monde. En plus, ça va empirer les choses. Les gens, au lieu d'aller, si on ferme les tribunes visiteurs, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens en se déplaçant? Ils vont se retrouver au milieu des autres, au milieu des supporters à domicile. Ce qu'on a vu à Ajaccio cette année, Ajaccio-Bordeaux, où les Bordelais se sont déplacés, étaient interdits de déplacement au dernier moment, sachant que certains avaient réservé un Airbnb à la semaine, étaient déjà sur place quand l'arrêté est tombé. Ils se sont retrouvés interdits au dernier moment. Alors, par frustration, et moi je comprends totalement, j'aurais fait la même chose, ils sont quand même allés au stade, dans la tribune ajaxienne, en latéral, donc ils étaient quand même à l'opposé du COP, hein. On n'est pas imbéciles non plus, on va pas se mettre à côté du COP par pure provocation, ils étaient à l'opposé du COP, mais il y a quand même eu des soucis, parce que bah voilà, une tribune visiteur, c'est justement fait pour garantir la sécurité des visiteurs. Si on les ferme, ça va faire les fermer.
Vous voyez comment vous acceptez finalement, je comprends hein, tout à fait ce que vous dites, mais vous acceptez en le disant, que finalement, si on est, on regarde un match et qu'on est à côté d'un supporter de l'autre équipe, on peut se prendre une baffe dans la gueule. Ce qui est quand même extraordinaire.
Kevin, je vous remercie d'avoir été avec nous. Kevin dit non, il n'y a pas de raison de sanctionner les déplacements de supporters.
D'où la question de la violence qui est liée à un mode opératoire individuel.
On va continuer d'en discuter avec vous au 32-16 dans un instant.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story. On discute, on débat, on s'écoute, on vous écoute au 32-16.
Et on vote pour la GG de l'année.
Bien sûr.
RMC.fr.
On va le rappeler là tout à l'heure. Mais vous, le vote est ouvert jusqu'à la fin de la semaine. Là, en attendant, on parle de ces violences dans le football, des déplacements de supporters. Fort heureusement, ce n'est pas tous les week-ends, mais malheureusement, on a quand même
des
accidents, des morts, des violences. Et la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, a dit basta, terminez les déplacements de supporters. Alors Kevin, qui est ultra accord, nous disait non, il n'y a pas de raison, il faut plutôt sanctionner au club de faire le nécessaire pour vraiment verrouiller les hooligans.
Il n'y a pas les moyens.
Ça peut même paraître injuste, parce que par exemple, quand le bus lyonnais se fait attaquer par des supporters marseillais, je ne sais pas si on doit appeler encore des supporters, par des voyous, bah, c'est pas les lyonnais qui posent problème, ceux qui sont déjà sur place, ceux qui accueillent. Donc c'est injuste souvent de faire violence à ceux qui arrivent, aux visiteurs.
Ce qui s'est passé à Nantes, ce n'est pas de la faute de mes amis niçois.
Les niçois,
c'est pas ça. C'est que visiblement il y avait des messages qui étaient passés pour dire les 4-5 VTC qui arrivent sont ceux des supporters niçois. Il faut aller les attaquer. Et donc il y a eu une attaque délibérée des VTC par des voyous, des types qui étaient en noir. On aurait dit des black blocs.
Non, mais en plus la ministre,
comme ceux qui ont attaqué le bus lyonnais, c'était pareil. En noir qui a goulé des pierres.
On n'arrive pas à endiguer le phénomène black bloc et donc on dit il faut interdire les manifestations. Et là c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'il y a une minorité agissante, on n'arrive pas à mettre fin à cette minorité, donc on va interdire tout le monde.
Non, mais la ministre, elle avoue d'elle-même qu'elle est acculée devant ce problème. Donc, au lieu d'avoir des solutions, dire.
Oui, c'est un aveu.
Voilà, c'est un aveu. Elle dit on prend la solution radicale, puisque c'est celle qui emporte tout.
On interdit les manifs à cause des risques.
Voilà. Alors, on va en parler avec Émilie, qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour, Émilie.
Bonjour les GG.
Supporter lensoise.
C'est ça. Supporter lensoise, abonnée au Racing Club de Lens, mais également supportrice du Paris Saint-Germain, parce que c'est pas incompatible et on peut pas toujours stigmatiser les supporters en leur donnant une étiquette. On peut être supporter et avoir.
On peut avoir deux clubs de cœur.
Donc quand arrive le match Lens PSG, vous êtes déchiré, quoi. En fait.
Un petit peu.
Bon, alors est-ce qu'on interdit les déplacements des supporters? Est-ce que c'est basta ou pas?
Non, on les interdit pas. Alors qu'on les encadre. Et moi, voilà, quand on nous dit les supporters marseillais ont attaqué les supporters lyonnais, comme vous en parlez, les supporters marseillais étaient déjà dans le stade. Alors.
Oui, c'est des voyous.
Vous avez raison. On va dire des voyous.
Dans mon cas. Mais c'est comme ça. Les supporters marseillais ont dit, nous, on était arrivés. Là, qu'est-ce qui nous prouve qu'effectivement, c'était des supporters qui ont attaqué et qui ont poignardé.
Bon, en tout cas, c'était des Marseillais.
Mais là, à Nantes, malheureusement, le supporter qui est décédé faisait partie de ce qu'on appelle la brigade Loire. Donc voilà, c'est un supporter aussi.
Mais le gars qui l'a attaqué, est-ce que c'est sûr que c'était...
Non.
Donc est-ce que c'est réellement une confrontation entre supporters?
Non, en fait, ce que disent les autorités, c'est que ces déplacements mobilisent beaucoup de forces de l'ordre, créent quand même du désordre dans les centres-villes, et donc, en gros, Oudéa Castéra dit, on va les supprimer, comme ça, au moins, on mobilise moins de gendarmes.
Émilie, mais par exemple, quand il y a eu des manifs, là, pour les retraites, systématiquement, les gens qui ont foutu un peu le bordel, c'était pas les manifestants qui manifestaient pour la retraite, c'était d'autres qui se sont collés dessus.
Donc, c'est un seul souci.
Eh ben non, oui, mais le fait de la manif, quand le préfet interdit la manifestation, il dit pour les risques de débordement. Il interdit carrément la manifestation. Là, le fait qu'il y ait des débordements, il suffit qu'il y ait 25 mecs bourrés, hein, ça suffit, hein.
Oui, mais alors,
des gens, 25 personnes déchirées.
Donc tu pénalises tout le monde.
Eh ben, non, mais le problème, c'est qu'on le fait tout le temps.
Non, on n'a jamais interdit une manifestation.
Émilie, vous-même, vous vous déplacez ou pas avec Lens? Est-ce que vous allez faire le derby contre Lille? Est-ce que vous descendez à Paris quand il y a le match ou pas?
On va voir des matchs, mais pas avec les groupes de supporters.
Pourquoi? Vous avez la trouille?
Bah oui.
Non, parce que j'ai pas, je suis affiliée à aucun groupe de supporters. C'est là à Lens, enfin, c'est très difficile, tant à Lens qu'au Paris Saint-Germain, si t'es pas abonné, d'avoir des places. De te déplacer, il faut faire partie des groupes de supporters, sinon c'est très compliqué d'avoir des places. Tandis que si tu y vas et si tu achètes tes places en tribune, et forcément, je vais pas y aller avec mes couleurs, je vais pas aller à Lille, j'ai déjà été voir des matchs, je vais pas mettre mon maillot.
Alors?
Eh oui.
Et donc, c'est plutôt, et c'est féminin.
Mais ça ne m'empêche pas de supporter mon équipe, de me lever s'il y a un but, voilà.
Ouais, mais ça dit quelque chose, Émilie, bah
oui,
pardon, mais ça dit quelque chose plus globalement de notre société aujourd'hui, où tu peux pas avoir tu peux pas avoir une manif sans qu'il y ait de la baston, oui. Tu peux pas avoir aujourd'hui un
déplacement. Donc c'est la question de l'éducation d'une société.
T'as vu quel type de baston? C'est-à-dire que c'est de la baston violente.
Ah bah oui, mais
c'est pas des échauffourées comme moi j'ai pu voir autour des stades où de temps en temps.
Oui, mais Alain, dans une société,
c'est violent.
Dans une société, ça fait un tout. Chaque individu compose une société qui font une communauté nationale. À partir du moment où t'as plein de pans de la société comme ça, où la violence s'exerce de plus en plus, que ce soit à l'école, dans le sport, dans les manifs et ailleurs, tu te poses la question de comment se comporte ce peuple qui compose une société. Qu'est-ce qui a été raté pour que les gens se comportent de la sorte? Il y a des sociétés, tu vas au Japon ou d'autres sociétés où il y a beaucoup moins de...
Mais la violence est différente.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu te comportes qu'avec le cri, la violence, à chaque fois, c'est ta seule réponse, quel que soit l'endroit où tu es, que ce soit à l'école, dans un supermarché, dans une agence de voyage, à l'aéroport, dans un avion, sur un stade de foot, etc. Et qu'à chaque fois, tu dois insulter dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. On n'avait jamais vu ça. Dans les hôpitaux, alors tu as des grands panneaux qui te disent toute agression envers, tu vas à la sécu, c'est pareil, tu vas dans plein d'endroits, ce que tu ne voyais pas avant. Donc ça veut bien dire que quelque part, on a une violence omniprésente qui peut s'exercer dans n'importe quel endroit. Et jusqu'au foot. Donc je vois pas pourquoi le foot serait épargné et il en fait partie.
Non, mais c'est vrai, puisque par exemple, quand on va voir un conseiller à Pôle emploi, maintenant il a une petite télécommande avec un bouton rouge en cas d'agression. Donc on en arrive là. Moi, je pense qu'il y a un mot très important qui a été prononcé et qui explique tout, en fait. C'est, on a parlé à propos de la ministre, on a parlé d'aveu d'impuissance. Moi, ce que je vois de la part du gouvernement français sur tous les sujets, y compris celui-là, c'est des aveux d'impuissance systématiques, que ce soit en économie, que ce soit M. Darmanin sur la sécurité, que ce soit là sur les violences de supporters. Et en fait, c'est ça également l'une des causes de cet ensauvagement, c'est la faiblesse de l'État. C'est-à-dire, l'État est faible et envoie en permanence des messages de faiblesse. Donc évidemment, la violence progresse. C'est ça en fait le nœud du problème.
Non, mais là tu es dans la partie répression.
Oui.
Moi je parle
de parce que de toute façon mais bien sûr, sur le reste on n'a pas de levier de commande.
Non, mais en plus c'est pas qu'avec Macron ça date.
La prévention, on sait ce qu'on dit mais on sait jamais quel est le résultat. L'avantage de la répression, c'est qu'on est au moins
s'il n'y avait pas de prévention du tout, bah laisse tomber, il y aurait 80% de violence.
Tu simplifies, en plus tout te donne tort, puisque en fait
la solution anglaise, elle est répressive.
Plus il y a de
la solution anglaise, elle est répressive, elle n'est pas préventive.
Plus il y a de répression, très souvent, plus ça déclenche, au contraire, des.
En Angleterre, c'est totalement le contraire.
L'Angleterre a été, d'abord, c'était pas la même époque. Donc il faut voir aujourd'hui, on est dans une
les mesures
une
sont
forme de
en
société
place.
Qui a évolué, même si les mesures sont en place, ils ont pris des habitudes que nous on n'a pas pris, on est certainement passé à côté à l'époque de ce qui se faisait, mais on disait à l'époque que les violences c'était les Anglais. Mais par exemple, moi je le dis souvent ici, j'étais à Marseille quand les
mais
Russes.
Mais t'as vu la tête des mecs sur les photos, sont débarqués. Tu crois qu'ils ont une tête à écouter la prévention?
Quand les Russes, sur les photos, ils ne comprennent que la répression. Quand les Russes ont débarqué à Marseille avec des battes et qui cassaient absolument tout ce qu'ils trouvaient, on peut pas dire que c'est des types particulièrement mal élevés. Je suis sûr que dans la vie, ils sont très gentils. C'était des citoyens russes normaux. Et là, ils étaient défoncés Mais la les flics ont eu peur. La répression,
c'était impossible à faire.
Alors, je remercie Émilie d'avoir été avec nous.
Non, c'est encore pire.
Plus les mecs, ils étaient en colère.
Moi, je suis.
Merci Émilie.
Supprimons la police, il y aura plus de violence.
Émilie, c'est les supporters de Paris.
Non, et Lens.
Et Lens. Et bien, au Parc des Princes.
Pardon, mais moi, j'ai toujours été au Parc des Princes. Il y a eu un mort aux abords du parc. Il y a eu ce phénomène de violence. Et à un moment donné, moi, je n'osais plus aller avec mon gamin au parc parce que c'était il y a 20 ans, 15-20 ans, parce que c'était insupportable, il y avait trop de tensions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils ont fait le ménage, ils ont fait le ménage dans les tribunes, ils ont augmenté le prix des places, ça c'est vrai. C'est un peu discriminant, mais ils ont augmenté le prix des places et aujourd'hui tu vas au parc en toute sécurité, t'es pas obligé d'avoir autour du parc autant de forces de l'ordre, donc ça permet aussi de réduire les moyens, mais parce qu'il y a eu des mesures fortes qui ont été prises par un président.
Donc c'est chaque club de l'époque
qui s'appelait Robin Leproux et qui a dit basta. Donc alors, il faut que un, le club ait la volonté de le faire, et deux, qu'il soit soutenu par les pouvoirs publics.
Merci à Émilie d'avoir témoigné. Bonne journée, Émilie.
Juste rajouter quelque chose.
Oui, je vous en prie.
Moi, j'ai l'impression, quand on est supporter de foot, que forcément, c'est stigmatisant et on a l'impression d'être des ploucs. Moi, j'ai eu ce sentiment-là avec la Coupe du Monde de rugby. C'est qu'au rugby, on nous dit tout va bien, et les problèmes, c'est toujours pour les supporters de foot.
Ah, c'est factuel.
Franchement, je trouve ça dommage.
Bah, c'est pas faux non plus.
Oui, mais
quand vous allez voir un match de rugby, vous êtes vous êtes à côté du supporter de l'équipe adverse.
Alors moi, je vais faire une remarque aussi, c'est qu'un joueur de rugby gagne quand même beaucoup moins qu'un joueur du foot.
Ce que je dis, ça, c'est
et donc il y a peut-être une corrélation
entre les deux. Comment on a fabriqué.
C'est-à-dire, il y a un c'est exactement ce que tu disais. Il y a un investissement dans tous les sens du terme, financier, symbolique, affectif dans le foot, alors que le rugby a échappé. En fait, l'argent a corrompu.
Ça va venir.
Et ça se retrouve jusque-là dans ses comportements.
Bonjour Nicolas.
Bonjour
Nicolas.
Salut,
alors on fait le tour des supporters parce qu'on était tout à l'heure avec Kevin du côté du stade Malherbe de Caen, avec Émilie on était à Lens et avec vous on est à Metz.
À
Saint-Symphorien.
Il y a des
Nicolas.
Footballeurs à Metz.
Allez les Grenats.
Il y a des footballeurs à Metz. Oui, effectivement, c'est un des clubs les plus vieux.
Oui, c'est vrai.
Oui, les Grenats.
Moi, je me souviens. Quel âge avez-vous? 41 ans. Moi, je me souviens quand je faisais les Panini à Metz. Je me souviens, il y avait Nico Brown et qui était avançant et Nestor Combin aussi.
Ah, c'est ça. Oui, c'est exactement ça.
Ouais. Et il y avait Castendush aussi. Ouais.
Oh, oui, Sylvain, ouais.
Alors, Nicolas, on interdit les déplacements, on dit basta?
De toute façon, n'importe comment, ils seront toujours là, les supporters.
Ouais.
Vous pouvez interdire n'importe quoi, ils seront toujours là. Donc, après, c'est le cadrage qu'il faut faire. C'est, après, des bêtises humaines, c'est combien de cons là-dedans, en fait, ce que je veux dire par là. Combien d'imbéciles, en fait? Il y en a que un ou deux dans toute la troupe.
Il y en a une vingtaine, une cinquantaine, je crois.
Et d'attitude d'imbéciles alcoolisés, il y en a combien? Parce que faut les deux quand même.
Pas besoin d'être alcoolisé pour être con, excusez-moi.
Ouais, enfin.
Mais vous les avez, est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, à Metz?
Oui.
Par exemple, les gars habillés tout en.
On l'a bien vu contre Lyon avec Lopez. Mais ces imbéciles-là, généralement, les gars du groupe, de notre groupe, on les sort du stade.
Ah ouais?
Ah oui, bien sûr. On les sort du stade, on les donne à la sécurité, dégage.
D'accord. Et puis, ils remettent plus les pieds au stade?
Non, on les voit plus, en tout cas. Pas chez nous.
D'accord.
Ah bah oui.
Donc, Nicolas, vous me dites, c'est aussi aux supporters, au groupe de supporters, de faire le ménage, quoi.
Exactement. C'est aussi après, pour les déplacements, ça n'a strictement rien à voir. Les déplacements, ça doit être encadré par la police aussi, également.
Ouais.
Donc, un déplacement, on s'arrête à 10 km du stade, on a escorté, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi on interdirait les supporters.
Regardez ce qui s'est passé à Metz, c'était le bus, à Metz, pardon, à Marseille, le bus des Lyonnais était escorté.
Bah, le problème,
et il y avait une trentaine de types qui avaient des pavés et qui ont caillassé de loin.
Est-ce que vous avez vu la police réagir?
Non. Assez, en tout cas.
Quelques voitures qui étaient là, elles étaient de l'autre côté du stade.
J'étais extrêmement choqué là-dessus.
Ouais.
J'étais extrêmement choqué de voir que la police ne faisait rien, alors que le cortège, il doit bien passer par une rue, bien signalé. Donc je ne comprends pas pourquoi ces groupes d'individus, des crétins, des cons, pourquoi ils viennent.
Et puis, donc vous demandez au pouvoir public d'agir contre ces individus plutôt que de punir tout le monde.
Merci Nicolas, vous avez terminé notre discussion ultra du FC Metz et tous les supporters, dit-il, ne sont pas comme ça. La preuve, nous aussi, on fait le ménage. Quand il y a des violents, on les sort nous-mêmes du stade et on les remet à la sécurité. Stop au déplacement, on va voir ce que vous en pensez. On a posé la question sur les réseaux sociaux.
Plus, hein,
on verra. Non,
pas, c'est serré. Hein.
Non, pas de stop au déplacement.
Pas très, très
53% ne veulent pas d'interdiction de déplacement. Dans un instant, on va passer au GG7 et match avec le classement PISA. Vous savez, le classement
ça va tomber.
De... Comment ?
Ça va bientôt tomber, à mon avis, il n'est pas bon.
Oui.
Le classement qui montre le niveau des élèves de manière internationale. Est-ce que le niveau des Français baisse ? Lecture, maths, est-ce qu'on est vraiment de plus en plus mauvais, les élèves ? On a une équipe qui dit oui, Jean-Louis Olivier, une équipe qui dit non, Étienne et Zora. Eh bien, on va en discuter avec vous au 32-16.
RMC,
9h midi,
les Grandes Gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, il est 11h moins le quart. Ça veut dire que dans une demi-heure, l'un d'entre vous sera en direct avec nous au 32-16. Pourquoi ? Parce qu'il aura été tiré au sort dans le cadre du jeu de Noël. Et peut-être vous ouvrirez le coffre de Noël. Je vous rappelle le principe. Vous avez encore une demi-heure pour dans les Grandes Gueules, parce que ça se gagne dans toutes les émissions, dans tous les shows d'RMC. Mais dans les GG, pour m'envoyer Noël par SMS au 732-16. Vous m'envoyez Noël par SMS au 732-16. Que se passe-t-il ? Vous êtes tiré au sort, vous êtes avec nous en direct dans les GG. D'ores et déjà acquis un vélo électrique. Mais, vous aurez peut-être la tentation du coffre RMC, auquel cas on oublie le vélo électrique, vous me faites ouvrir le coffre. Et là, dans le coffre, deux possibilités. Soit le bon d'achat de 150€ pour acheter sur le site Les Compères, c'est une marque made in France. Ou bien vous avez la totale. Et la totale, c'est la semaine de vacances, la machine à café expresso de Longhi, la mini cave à vin, un air fryer Philips et la friteuse à air, et un brasero avec grill barbecue.
Oh punaise,
hier,
c'est Noël là.
Hier, la totale a été gagnée hier.
Allez,
donc, vous avez encore le temps, une demi-heure devant vous, envoyez
Noël. Moi, je veux bien le vélo.
Toi, tu garderais le vélo.
Ah, ouais, moi, je garderais le vélo.
Ah, Étienne, tu tenterais la totale ou tu garderais le vélo électrique ?
Ah non, je garderais le vélo.
Garderais le vélo.
La totale.
Toi, tu tenterais
la totale. Et je pense qu'en plus, il y a beaucoup plus de chances de gagner qu'à l'euro million dont on parlait tout à l'heure. Donc, moi, je vous invite à jouer. Hein.
On a eu un gagnant
rationnel.
Oui, voilà. On a eu un gagnant hier dans les grandes
gueules. En termes de proba, vaut mieux jouer au jeu des grandes gueules.
Allez, envoyez Noël par SMS au 732-16. Noël par SMS au 732-16. On y va pour le GG7 et match.
RMC.
GG7 et match.
Alors, on attend les résultats dans un instant du rapport PISA.
Dans un quart d'heure, c'est comme le jeu de Noël.
Oui.
Mais là, ça va pas être un cadeau, je pense.
Le rapport PISA, vous savez, c'est l'étude sur le niveau international des élèves. En général, on voit que ce sont les Scandinaves ou les gens en Asie qui sont les meilleurs. Mais là, le niveau des Français, ça devrait être la dégringolade.
Vu comme Gabriel Attal s'agite depuis quelques jours pour dire qu'il y a un problème, bon, c'est qu'à mon avis, il ne doit pas être très bon, donc il anticipe.
En particulier en français, en maths, on entend déjà la musique du redoublement. Pas de tabou, disait Gabriel Attal. Alors, est-ce que ça veut dire que le niveau de nos élèves est de plus en plus mauvais, qu'il est véritablement en chute libre? Une équipe dit oui, Jean-Loup Bonamy, notre enseignant en philosophie, Olivier Truchot, notre père de famille nombreuse. Et puis une équipe dit non, ça, on est en train de s'adapter. C'est Étienne Liebig, l'éducateur, et Zora Bitant, cadre de la fonction publique. La parole au nom, avec les 60 secondes, à Étienne. Étienne, c'est à toi.
Écoute,
c'est parti.
Je commence par une anecdote. Moi, ma petite fille, elle a 7 ans, elle est sortie du cours préparatoire l'année dernière. C'est dans le 18e arrondissement, et c'est une école publique, bien sûr. Et elle et tous les enfants de sa classe, et les 3 classes de préparatoire, savaient parfaitement lire. Ils savaient lire, et ensuite, on rentre à la maison, et ensuite, on est soit soumis, alors elle fait partie d'une famille qui est effectivement archi-intellectuelle, il y a 800 livres chez elle et ses parents lisent sans arrêt. Elle est très soumise à l'incitation à lire, elle lit beaucoup, donc elle entretient la lecture. Ailleurs, il y a moins de livres, il y a plus d'écrans, et c'est un de nos gros soucis en ce moment, et c'est partagé par tout le monde. Et donc, effectivement, on est moins soumis à la lecture et on passe plus facilement aux écrans. Donc, faut pas tout rejeter sur l'école. Par ailleurs, on sait que nous avons des problèmes. d'enseignement, sur la méthode d'enseignement, sur les questions des langues, qui sont encore très écrites, alors que dans d'autres pays, on est dans les langues orales, et sur les questions des mathématiques, où très souvent, les jeunes ne voient pas l'application des mathématiques qui travaillent dans la vie quotidienne et n'en font pas le rapport. Je crois que le monde a changé, qu'on demande à nos enfants beaucoup de choses nouvelles, notamment autour de l'informatique. Mais
là, je crois que ça dépasse.
Non, mais
les mathématiques, 60 secondes, c'est une minute.
Non, c'est pas des minutes.
Mais que donc, faut qu'une éducation soit adaptée. Oui,
carton jaune.
Soit adaptée rapide au monde dans lequel on va vivre.
D'accord.
Pas une éducation 0 sur 20 de 1930 pour des enfants de 2023.
Réponse, Jean-Louis Bonamy.
Alors moi, je pense que le niveau ne baisse pas, il s'effondre de manière stratosphérique depuis 30 ans. Et d'ailleurs, comme le disait Nietzsche, ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin du test PISA pour savoir que le niveau des élèves s'effondre. Je n'ai qu'à regarder le niveau des élèves que je vois sur le terrain, qui sont très sympathiques, qui ont soif d'apprendre, mais qui, en classe de terminale, ne maîtrisent pas à l'écrit les bases de la langue française. Voilà. Et qui ont un manque de culture générale, historique,
scientifique. Qu'est-ce que tu constates comme lacune? Donne-nous un
exemple. Moi, je constate, par exemple, que ENT, à la troisième personne du pluriel, a disparu. Socrate et Platon réfutent, ils mettent pas ENT à réfute. Je constate des phrases très mal construites qui n'ont plus aucun sens et qui disent le contraire de ce que les élèves veulent dire. Voilà, c'est ça que je constate. Je constate des élèves qui n'ont plus aucune culture générale, qui ne savent à peine qui est Napoléon et qui n'ont plus non plus de culture scientifique. Voilà, moi, c'est ça que je constate sur le terrain. Pourtant, ils sont très bien. C'est pas de leur faute à eux. Eux, ce sont des victimes du système, notamment parce qu'on a fait le choix d'abandonner les méthodes qui marchaient, celles qui sont appliquées aujourd'hui en Asie, par exemple au Japon, à Singapour. On a fait le choix de méthodes pédagogistes où on s'est dit que ce n'était plus au professeur de transmettre le savoir, qu'on devait mettre l'élève au centre. Ben, on en voit le résultat. Le résultat, il est absolument catastrophique et on va le payer.
Pourtant,
va...
tu en es le fruit de ce résultat, de quoi toi aussi.
Oui, mais moi, c'est ce que je voulais répondre tout à l'heure à notre ami quand il nous parlait de sa petite fille. C'est que moi, j'ai eu la chance justement de venir d'un milieu.
C'est un système très inégalitaire.
Voilà, c'est un système très inégalitaire. C'est-à-dire que l'effondrement de l'école nuit aux classes populaires. Les classes populaires sont les premières victimes.
Tu as eu des parents profs
ou de quoi? Oui, moi, mes parents étaient
enseignants.
Voilà, mes parents étaient enseignants à la fac.
C'est pas la pédagogie de l'école, c'est le milieu. C'est le milieu qui est incitatif ou non.
Non, qui corrige. Oui, mes parents m'ont sauvé de l'école.
Qui corrige.
Aujourd'hui, pour réussir, il faut être fils de prof.
Oui. Et les profs connaissent très bien le système.
Oui, non, mais je dis pas ça. Je dis juste que on met sans arrêt la faute uniquement sur le système scolaire, comme tu viens de le faire, et les pédagogies qui ont été utilisées.
Or, c'est les coupables.
Je pense qu'il y a bien plus que ça dans une société qui, aujourd'hui, on sait le temps d'écran des enfants, etc. Il y a bien plus que ça. Il y a véritablement l'incitation à la lecture, etc., et au savoir, qui vraiment est très dépendant des familles. C'est pas de la faute de l'école.
C'est en partie de la faute de l'école. Sur le pédagogisme.
Pardon, mais les parents dans le monde entier sont les mêmes. Le PISA. C'est plus de 80 pays.
Mm-hmm. Oui, mais donc, après, je vais en parler, moi, de PISA, parce que c'est pas ce qu'on pense.
Oui, oui, mais c'est ça. Mais voilà. Alors, Zora va être dans le déni. Je termine.
Non, mais je rêve. J'ai même pas encore parlé.
Ça fait 20 ans.
Non, mais au secours.
Ça fait 20 ans qu'il y a des gens comme Zora Bittan qui disent oui, mais c'est pas exactement ce qu'on pense. Alors, PISA, c'est seulement les plus de 15 ans. Oui, c'est plus de 15 ans.
Non, mais il n'y a pas que ça.
Mais pardon, c'est un tableau comparatif.
Oui, mais entre des pays qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout en voie de développement. Je trouve plus intéressant ce que tu dis. Que PISA, c'est plus intéressant l'étude de terrain et de voir nos jeunes aujourd'hui que PISA. D'accord. À la limite, PISA, ça dit rien du tout.
Mais Zora, le thermomètre, c'est très français. Quand il nous convient pas, on le casse. Et ça fait 20 ans qu'on dit ah non, PISA vraiment. Et puis il y a des
Monsieur Truchot, vous allez vous arrêter.
Mais je vais aller au bout de ma réflexion et comme ça tu pourras me répondre. Mais il y a des pays comme l'Allemagne. C'est un pays comme nous, l'Allemagne.
Oui, oui.
D'accord. L'Allemagne, ils ont dit ah ça c'est intéressant quand même parce que PISA, effectivement, on est en train de déclasser. Eh bien, ils ont plutôt essayé de tirer les conséquences de ce qui marche. Chez PISA, quels sont les modèles qui marchent? Et c'est pas des modèles en voie de développement, les modèles de Singapour, d'Italie, d'Asie. Et ils ont essayé de l'appliquer. Et aujourd'hui, le niveau en Allemagne est meilleur que le nôtre. Bon, donc quand on sortira de ce déni français, peut-être qu'on pourra.
Donc moi, je vais pas faire de déni parce que c'est pas mon genre, mais je vais plutôt dérouler mon argumentaire. Que le niveau est baissé. Effectivement, si on prend l'étude PISA, elle dit rien du tout parce que elle est pas intéressante. Ah bon. Elle apporte pas. Non mais Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, pendant tant d'années, on a creusé les inégalités en continuant de fournir de l'instruction de bon niveau à ceux qui étaient privilégiés et qui en avaient les moyens, et comment on a bradé l'accès au savoir pour les classes populaires. Je m'explique. On entend, par exemple, dire que puisque les jeunes maîtrisent mal le français, régressons dans la façon dont on utilise la langue française, modifions la grammaire, le vocabulaire, etc. Adaptons-nous aux niveaux les plus faibles. En fait, il est là le problème, c'est-à-dire que
en fait, t'es d'accord avec nous.
Mais oui,
rejoins-nous alors.
Non,
ah oui, c'est
mais
PISA.
Non, mais
c'est exactement ce que dit
non,
PISA.
Non, mais PISA dit. Ce qui est intéressant, c'est que PISA ne va pas dans le détail. Et là où j'étais pas d'accord avec vous, c'est que quand on fait une étude, l'OCDE a fait une étude sur les petits, sur les primaires, et on voit qu'il y a une amélioration,
donc, ça veut dire
qu'on progresse, et que ça progresse chez les petits, chez les 15 ans. Et donc ça veut dire qu'on va, on a peut-être enfin compris qu'il fallait enfin faire en sorte que le français garde son niveau, que les matières comme le français, le maths et la compréhension, parce que il y a la question de la compréhension qui est un vrai problème, reviennent au centre de l'instruction, mais
exactement ce que dit PISA depuis des années.
Mais ce qui est intéressant, c'est que on a toujours l'impression quand on grandit, quand on vieillit, que d'abord c'était toujours mieux avant, bien sûr, ça c'est bien connu, mais surtout que on a des acquis que les jeunes n'ont pas. Mais nous, on a des tas d'acquis que nous n'avons plus par rapport à ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que toi, tu es dans l'enseignement, par exemple, sur la question de la littérature, on a un niveau de français, même en étant un intellectuel, qui est très très bas.
Ah oui, c'est bien un problème.
Par rapport à ceux qui étaient...
C'est vrai, c'est un problème.
Non, mais c'est parce que c'est un mouvement général de façon de penser, de globalisation, de façon de penser, et l'effondrement, il date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, si on prend par rapport au 19e siècle, on ne sait absolument plus ni lire ni écrire, ni toi ni moi. Oui, donc la question, elle est toujours que, en fait, le monde évolue, qu'aujourd'hui, par exemple, on voit une langue.
C'est pas grave.
Non, mais attends, je dis pas que c'est pas grave, je dis juste qu'on voit une langue comme la langue américaine, qui a une plasticité extraordinaire et qui s'adapte en permanence au monde moderne, et qu'évidemment, le français, qui est une très vieille langue, a du mal à suivre le modèle américain et est obligé de s'américaniser pour vivre.
D'accord.
Sinon, on devient une langue morte.
Etienne.
C'est un mouvement naturel.
Oui.
On ne peut pas faire autrement.
D'accord. Etienne,
le chinois dont vous prenez toujours exemple, le chinois a abandonné son écriture traditionnelle pour faire une écriture qui s'adapte aux ordinateurs, abandonnant pratiquement l'intégralité de sa culture pour pouvoir s'adapter au 21e siècle.
C'est complètement faux.
C'est complètement vrai. Parce que sinon, le chinois, tu ne l'écris pas sur Internet.
Mais la Chine n'a pas abandonné sa culture.
Elle a abandonné son système d'écriture qui était basique de sa culture.
Excuse-moi,
bien sûr que si. Bien sûr que si, tu peux écrire au téléphone, tu ne pouvais pas.
Le niveau des élèves français.
C'était des idéogrammes.
Est-il globalement en baisse? Oui pour Olivier et Jean-Loup, non pour Zora et Étienne. Quelle équipe, là, à la mi-temps, mène le match? Vous saurez ça dans 3 minutes.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.